Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, je souhaite une bonne après-midi. Nous allons ouvrir notre Bible. Et comme nous l'avons déjà exprimé à travers ces quelques chants cantiques, une invitation à découvrir en Dieu la paix, le repos, tout ce dont nous avons besoin. Et comme nous l'avons chanté, si nous voulons le bonheur, une seule solution, c'est de pouvoir ouvrir notre cœur à ce message, qui est un message qui fait du bien, un message qui nous apporte des certitudes, des assurances, dans un monde, et peut-être dans une vie, la nôtre, où il y a tant d'agitation et tant d'inquiétudes, de soucis. Alors, il y a bien des textes dans l'Écriture sainte qui nous invitent à cette belle proposition de Dieu. Et il y en a un particulier, elles sont les paroles mêmes de Jésus dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11. Et nous allons lire ce que précisément le Seigneur nous dit, nous invite, ce à quoi il nous invite. Et nous y allons porter toute notre attention parce que ce sont un message de consolation et un message de véritable espérance. Alors voilà, évangile de Matthieu, chapitre 11, et nous allons lire, très peu, mais suffisamment, le verset 28. C'est Jésus qui parle et qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Alors, à travers ces quelques mots, nous avons beaucoup de choses qui vont nous servir à étayer notre réflexion cet après-midi, et certainement, peut-être, pour celui qui en effet, peut se sentir concerné à travers ces quelques paroles. En tous les cas, il y a une formidable invitation à aller dans la bonne direction, au bon moment et vers la bonne personne. En quelque sorte, Jésus, à travers ces trois mots qui commencent, qui débutent notre récit, c'est « venez, venez à moi ». Il n'est pas question d'aller vers n'importe qui, de faire n'importe quoi et n'importe comment. Et ça se trouve au cœur même de l'évangile, où Jésus dira à tous ses disciples, et puis aussi à ses accompagnateurs du moment, parce qu'il était souvent entouré de foules, de gens qui se pressaient autour de Jésus pour sa personne, pour écouter ce qu'il avait à dire, pour recevoir aussi guérison et autres délivrances. Et Jésus donc va donner cette indication essentielle de venir à lui. Nous vivons dans un monde... Et ce n'est pas nouveau, mais à travers des siècles et des siècles, des « venez à moi », il y en a eu beaucoup. Et c'est vrai que des hommes sont venus, sont passés, prétendant avoir un message, prétendant faire du bien, ou apporter une espérance aux hommes, se sont présentés en quelque sorte en lieu et place de Jésus. Mais c'est bien Jésus qui nous dit cela, tout le contexte le prouve, ce n'est pas un autre. Jésus a bien dit « venez à moi ». Et nous nous apercevons que s'il invite, comme il le fait, comme nul autre homme ne saurait le faire, comme lui le fait, comme lui le prétend, c'est qu'il a certainement des réponses à nos questions et des solutions à nos problèmes. Alors « venez à moi ».« Venez à moi », nous dit-il, « Et vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Alors nous rentrons un petit peu plus dans ce qui peut nous concerner. À partir du moment où nous entendons ces paroles, suis-je fatigué et suis-je chargé? fatigué de vivre et chargé de fardeaux, de problèmes, d'inquiétudes et toutes sortes de choses semblables. Alors, on voit que nous sommes venus à la bonne personne. Jésus nous dit que c'est lui, étant donné qu'il le confirmera dans d'autres textes qu'il est le chemin, la vérité, la vie, et que nul ne vient au Père que par lui. Donc, nous savons à qui nous nous adressons. Nous nous tournons eh bien, vers la bonne personne et nous frappons à la bonne porte. Jésus, à l'exclusion de tout autre. Il n'est pas question d'une religion, il n'est pas question, là, eh bien, d'une solution humaine à quelque niveau que ce soit, mais il est question de Jésus. Première destination, donc, la personne de Christ. Et il déclare d'une manière formelle, et pour tous ceux qui sont en condition de fatigue ou de charge écrasante, de prêter attention à ce qu'il a à nous dire et aux propositions qu'il a à nous faire. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Voilà, eh bien, en quelque sorte, le début du programme. Je voudrais simplement maintenant illustrer, eh bien, ces charges et ces fatigues de l'humanité dont, je crois, à travers une vie, personne n'est exempt, parce qu'il arrive à un moment ou à un autre que, eh bien, nous traversons des moments difficiles pour différentes raisons, et nous le savons tout cela, eh bien, de pouvoir, en quelque sorte, voir ou voir apparaître une lueur d'espoir et de soulagement, parce qu'il s'agit bien de soulagement quand on est fatigué, et de pouvoir se délasser lorsque nous sommes écrasés. Il y a également un message que Jésus nous donne, et nous allons faire tourner quelques pages dans notre Bible, simplement pour, comprendre davantage, comprendre mieux. Dans l'évangile de Luc, et je lis, je vous donne la référence, vous pourrez toujours la retrouver, mais ça fait partie du premier message que Jésus a donné lorsqu'il était dans sa ville de Nazareth et qu'il parlera de la manière suivante. Il dira « L'Esprit du Seigneur est sur moi », je vous donne la référence puisque je vous l'ai dit, Luc 4, 18, « Le Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Voilà que par-delà les fatigues et l'identification de ceux qui sont écrasés, donc chargés, il y a quelque chose qui nous est donné, c'est une bonne nouvelle à ceux qui sont pauvres. Alors on peut être pauvre de différentes manières. Il peut y avoir une pauvreté économique, c'est celle à laquelle on pense spontanément. Il peut y avoir une pauvreté d'ordre moral, une pauvreté d'ordre affectif, sentimental, une pauvreté peut-être dans une déficience de vitalité, de santé. Ça, c'est aussi une pauvreté. Les malades, on peut dire, ce sont des pauvres qui sont pauvres, finalement, et bien là, en capacité ou en santé, parce qu'ils sont limités. Et nous pouvons dire que Jésus, lui, va recouvrir tout cela, toute cette humanité souffrante, en disant « J'ai quelque chose à vous dire, c'est une bonne nouvelle. » Et cet après-midi, alors que nous vivons dans un monde de mauvaises nouvelles en permanence, il semblerait, à moins que je me trompe, mais il semblerait qu'il y ait une accélération de mauvaises nouvelles. Voilà. La bonne nouvelle depuis 2 jours, c'est qu'il fait beau. Mais bon, jusque ça quand. Mais bon, peu importe. Ça, c'est un petit clin d'œil. Mais toujours une bonne nouvelle à ceux qui se sentent pauvres. Donc, il y a, d'abord, nous l'avons dit, les fatigués, les chargés, et les pauvres aussi. Dans quelles conditions suis-je ? Comment se passe ma vie ? Est-ce que véritablement je peux proclamer et dire, là, avec enthousiasme, que véritablement je suis un homme et une femme heureuse ? Ou alors, à ce moment-là, eh bien, peut-être que je fais partie de ces pauvres. De ces pauvres, il n'y a rien de péjoratif à être pauvre. Il y a tout simplement, eh bien, la conscience qu'il manque quelque chose à notre vie ou à votre vie. Bonne nouvelle aux pauvres. Et, il explicite, il dira, bien, Dieu m'a envoyé. Il s'agit toujours de Jésus, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, figurez-vous. Ouais. Parce que on parle aussi de maladie de cœur, mais ce n'est pas de l'organe cardiaque dont je voudrais vous parler, parce que ça se soigne, mais des cœurs brisés, brisés par la vie, brisés peut-être par la déception, brisés par l'abandon, brisés par la trahison, brisés par toutes sortes de choses qui, quelque part, peuvent casser un homme et une femme et casser véritablement le mettre par terre, et dont on a du mal à se relever, dont on a du mal à penser qu'il y a peut-être un espoir pour nous. Eh bien, Jésus est venu nous donner cette bonne nouvelle précisément pour ceux qui ont le cœur brisé. Vous voulez que je vous donne un autre mot? Pour ceux qui ont le cœur labouré, le cœur qui a été trituré, le cœur qui a été pilonné. Et il y en a. Et il ne faut pas attendre l'âge adulte pour être comme ça. Il y a des enfants par millions dans le monde qui ne connaissent pas autre chose que quelque part, eh bien, cette blessure intérieure. Ça ne se voit pas, apparemment. Je veux dire que vous êtes handicapé d'une jambe, ça se voit, vous boitez. Vous avez une infirmité d'une manière ou d'une autre sur un membre, ou peut-être au niveau de la vision ou d'autres choses. Ça peut se voir, ça. Naturellement, un aveugle, ça se voit par il se trahit lui-même avec ses tâtonnements, avec ses hésitations. Ça se voit. Mais un cœur brisé, on peut toujours afficher un sourire. On peut toujours avoir une apparence de monsieur tout le monde. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui sont profondément malheureux à l'intérieur d'eux-mêmes. Et Jésus nous dit, je suis venu vous apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Et puis, il poursuit, pour proclamer. Proclamer, c'est crier, en quelque sorte. Pour que ça soit bien entendu. Pour que le plus grand nombre, eh bien, puisse entendre ce que ça veut dire. Proclamer aux captifs la délivrance. Nous nous réclamons dans notre société de beaucoup de liberté. Liberté de ceci, liberté de cela, et c'est vrai que nous y tenons à notre liberté chérie. Hein. On s'est battu hein, pour cela à la Révolution, ça a été fait pour ça aussi. Hein. Mais il y a liberté et liberté. On peut être libre, civilement, socialement, économiquement, enfin, dans bien des domaines de la vie des hommes, mais quelque part être véritablement enchaîné et être profondément prisonnier des choses qui dominent à l'intérieur de nous-mêmes. Et des captifs, il y en a beaucoup autour de nous. Captifs d'addiction, captifs de passion, captifs de pensée, captifs d'obsession, captifs de toutes sortes de choses qui nous viennent de la part des autres, du jugement des autres, du « qu'en dira-t-on ?» Où là, eh bien, ce n'est pas la liberté qui préside à notre vie, mais c'est la peur, c'est la crainte. Et quand on est dans la peur, quand on est dans la crainte, quand on est dans l'angoisse, on n'est pas libre. On n'est pas libre, on est captif de ce que peut nous renvoyer l'extérieur, de ce que moi je me juge moi-même. Et de ce que peut-être, par rapport à ma vie, par rapport à mes erreurs, par rapport à mes fautes, d'avoir du mal à remonter quelque part. Et c'est ce qui fait que je suis fatigué. Je peux être fatigué d'avoir un cœur brisé, je peux être fatigué d'être là dans la captivité dont je connais, je sais, parce que je suis bien placé pour le savoir, puisque je le ressens tous les jours, jour et nuit, ça m'empêche de dormir, ça me tourmente. Alors Jésus nous dit, mais je suis venu pour dire, et très fort, à ceux qui sont captifs, eh bien que je leur donne tout simplement la délivrance. Ça, c'est Jésus qui nous annonce ça. Un homme, que peut-il faire ? Il peut apporter une consolation, il peut apporter une commisération, il peut apporter un soulagement. Mais peut-il libérer réellement ? Jésus nous libère. Jésus est capable de nous délivrer de nos fatigues et de nos charges, liées à un cœur brisé, liées à une captivité d'une manière ou d'une autre. Et puis, il est nécessaire que nous ayons les yeux ouverts. C'est le cœur, mais les yeux aussi. Parce que nous avons besoin de lumière. Nous avons besoin de voir la lumière. Nous avons besoin de savoir sur quel chemin nous marchons. Si nous nous égarons, si nous marchons, eh bien, comme il convient de marcher, vers la vie et dans la vie. Et c'est pour ça que Jésus dira, mais sachez que les aveugles, je leur offre le recouvrement de la vue. Alors c'est vrai que vous me direz, en lisant l'Évangile, il y a eu beaucoup de citations et beaucoup de commentaires évangéliques où Jésus guérit les aveugles. Il leur pose la main sur les yeux, il dit à Bartimée, eh bien, de se lever, et il va recouvrer la vue. Nous en avons d'autres comme cela, qui sont nombreux dans la Bible, où nous voyons qu'il y a un miracle pour rendre la vue aux aveugles. Mais il y a aussi une sorte d'aveuglement où nous ne savons plus du tout où nous en sommes. Et ça, nous vivons dans un monde qui se croit bien voyant, mais quelque part est aveugle sur des réalités, parce qu'il ne veut pas les accepter, parce qu'il ne veut pas les voir, parce qu'il ne veut pas les comprendre, parce qu'il ne veut pas voir la réalité des choses. Et Jésus est venu justement pour ouvrir les yeux des aveugles, pour leur dire, qu'en dehors de lui, et hors de sa personne, et hors de son pouvoir, et hors de la foi dans sa personne, eh bien, on ne peut pas voir clair. C'est pourquoi ? Parce qu'il le dira d'une manière très simple dans l'évangile de Jean, quand il dira « Mais je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Et peut-être notre problème cet après-midi, c'est que nous tâtonnons à droite et à gauche. Nous essayons vainement de trouver un chemin. Nous sommes en errance. Nous sommes comme si nous étions des vagabonds qui, perdant leur direction et finalement le sens même de leur vie, eh bien Jésus est venu nous rendre finalement, et bien là, nous dire où est le chemin, nous montrer la direction, et il va nous ouvrir finalement la vue. Et pas tant peut-être la vue au niveau de notre tête, au niveau de cette faculté de la vision, mais certainement une autre vue intérieure que l'on appelle la vue dans notre âme, la vue de l'âme et la vue du cœur, parce que ça c'est une autre vision. Et là, à ce moment-là, je vais comprendre, là je vais réaliser qu'il n'y a qu'un seul Dieu, un Dieu sauveur, un Dieu qui m'aime, un Dieu qui ne me rejette pas, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui console, un Dieu qui nous soulage, un Dieu qui nous délivre, un Dieu qui nous guérit, un Dieu qui nous sauve. Les aveugles recouvrement de la vue. Ça, c'est extraordinaire. Lisez la Bible. Et lorsque l'on lit la Bible, on s'aperçoit que c'est un livre magnifique et merveilleux, comme nous l'avons défini ce matin, parce que c'est un livre complet. C'est le livre de Dieu, d'une bonne nouvelle adressée à tous les hommes, tous ceux qui veulent écouter, tous ceux qui veulent ouvrir leur cœur, en quelque sorte, et de renvoyer libres les opprimés à l'oppression. Au moment où je suis en train de vous parler, il y a des millions et des millions de gens qui sont sous l'oppression d'une tyrannie politique, militaire. C'est terrible, hein. D'ailleurs, nous en avons les images très fréquemment par les médias, où vous voyez des femmes, des enfants, vous voyez des vieillards qui sont là, eh bien, affreusement et outrageusement persécuté. C'est vrai, c'est une réalité de notre monde. Nous ne sommes pas dans un monde idéal, hein. Alors, chez nous, c'est vrai que on vit dans un pays de paix, et soyons suffisamment intelligents et sages pour garder la paix que nous avons, hein, ce qui n'est pas garanti. Mais une chose qui est certaine, c'est que sur d'autres cieux, enfin c'est toujours les mêmes, mais sur d'autres latitudes, il y a des gens qui sont en train de pleurer, de souffrir. Moi, ça me fend le cœur lorsque je vois, comme nous le voyons parfois, des enfants qui sont en Ukraine ou en Irak ou en Syrie, qui sont dans la boue, dans des caves, dans l'obscurité, qui n'ont rien à manger. Je dis, c'est quelque chose d'horrible. Actuellement, j'ai deux bébés à la maison, c'est pas les miens, hein, vous en doutez. Mais je dis, ils sont toujours en train de réclamer parce qu'ils mangent, hein, c'est normal. Je me disais, mais ces enfants, s'ils n'avaient pas à manger, mais quel tourment pour les parents, quel tourment pour une mère de ne pas pouvoir donner à manger à son enfant. Un enfant, il ne connaît pas, il ne sait pas, il vit ce qu'il vit sur le moment, mais il a faim, tout simplement. Et il crie, il hurle. Mais quelle dévastation pour une mère de ne pas pouvoir donner. Et tout ça pour la faute des hommes, pour des fous, pour des gens qui sont des dominateurs, des tyrans et des despotes. Je me dis, mais est-ce que c'est ça? C'est terrible. L'oppression. Alors ça, c'est l'oppression physique, si vous voulez. L'oppression qui... la misère du monde. Mais il y a des oppressions qui sont tout autres aussi, comme nous l'avons dit dans les captivités. Une oppression qui vient peut-être de forces mauvaises. Il faut en parler, puisque Jésus en parle. Il y a des gens qui se livrent souvent dans l'inconscience, parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils sont aveugles. C'est pour ça qu'on l'a vu il y a un instant. Mais qui se donnent ou qui se vouent à toutes sortes de choses qui sont pernicieuses et mauvaises. Je pense à la magie, je pense à l'occultisme, je pense à toutes ces choses que l'on appelle la divination et qui, peut-être, nous laissent une pensée quand on ne connaît pas la chose, que ça fait partie d'un monde de l'Antiquité, des choses, hein, des sociétés premières, etc. Mais c'est aussi notre monde aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de multiplication, d'occultisme et de magie et toutes sortes de forces mauvaises comme ça. Tant dans la magie blanche que dans la magie noire, ouverte. Alors ça, c'est une oppression. Et j'ai toujours remarqué que les gens qui s'adonnent à cela deviennent prisonniers. Oui, ils deviennent prisonniers d'une chose, ils deviennent prisonniers de l'incrédulité. Ils ont du mal après à croire que Jésus peut les délivrer. Mais faut-il, à ce moment-là, venir vers Dieu et lui demander pardon? Parce que quand nos yeux se sont ouverts et que l'on sait que ce sont des choses qui sont spirituelles, que l'on sait que ce sont des choses qui sont pernicieuses et qu'elles sont profondément mauvaises, eh bien on peut venir devant Dieu pour lui demander pardon. Seigneur, je ne savais pas, je l'ai fait en raison de ma souffrance, en raison de ma curiosité aussi. Mais je l'ai fait, mais je te demande pardon. Et bien, moi, je voudrais vous dire cet après-midi que Dieu est capable de nous pardonner. Et il veut nous pardonner pour que là, nous passions des ténèbres à la lumière, que nous puissions de la puissance, finalement, de celui qui est le maître de l'occultisme, le diable, à la puissance de Dieu. Une véritable liberté. Moi, j'ai un ami, il y a des années, ça fait près de 30 ans, nous avions un stand biblique sur la place du marché à Angers, et il est venu, c'était un homme qui pratiquait, il était professionnel de l'occultisme. Ah, c'était pas n'importe qui, hein. Ouais, professionnel de l'occultisme. Et parce qu'il avait l'amour de Dieu dans son cœur, l'amour de la vérité au départ. Il est venu, et je lui avais donné tout simplement, on avait parlé ensemble, un petit prospectus. Le lendemain matin, il était au culte. Et il a entendu l'évangile à ce moment-là. Et là, la lumière s'est faite. Et de ce qu'il était auparavant, il est devenu un véritable chrétien. Il a renié tout ce qu'il avait, son passé, parce qu'il le faisait par ignorance. Il pensait que le spirituel, eh bien, il n'y avait qu'un spirituel neutre, tout simplement. Parce qu'il sait très bien, un occultiste sait très bien que c'est pas le monde de la chair, c'est pas le monde des hommes, c'est le monde spirituel. Mais là, il a découvert d'une manière flagrante qu'il y avait un spirituel divin, du salut, de la vie et de la vérité, et un spirituel malin qui vient du diable et qui tue et qui détruit. Alors, c'était véritablement une révolution. Et quand je lis ces paroles, pour renvoyer libres les opprimés, c'est la liberté dont nous avons besoin. Que de tourments, que de pensées suicidaires, peut-être dans le cœur des hommes, parce que ce n'est pas Dieu qui pousse à ces pensées-là, c'est le diable qui veut nous détruire. Et ça, il faut que vous le sachiez. C'est une réalité. Mais nous ne sommes pas obligés de mourir et de croire aux mensonges du diable. Il faut croire à la vie. Il faut croire que Dieu donne la vie. Et si nous crions à lui, comme le livre des psaumes nous le dit, quand un malheureux crie à l'Éternel, eh bien Dieu l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Et c'est là où il faut engager notre volonté, notre détermination de dire maintenant, je sors de mon camp, je sors là de ce que je suis pour aller véritablement dans ce que j'ai entendu parce que j'y crois. Renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce de la part du Seigneur. Et voilà que Jésus, quand il nous dit ceci, « Mais je suis venu, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Vous êtes fatigués par tout ça. Vous êtes chargés par toutes sortes de fardeaux qui vous écrasent, qui vous met plus bas de terre et vous ne vivez pas. Vous ne pouvez plus vivre. Et Jésus d'ajouter, « Je vous donnerai du repos. » Est-ce que nous voulons le repos? Est-ce que nous croyons à la possibilité du repos dans notre vie? Est-ce que vous croyez que c'est possible que nous rentrions dans une autre dimension? Que nous rentrions dans une autre vie? Que nous puissions souffler et voir la vie avec d'autres yeux, avec un autre cœur? Et nous réjouir? Et d'être, eh bien en quelque sorte, si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, vous connaissez la solution, on l'a répété plusieurs fois, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Tout simplement. Ça, ce sont des choses basiques, nous pourrions dire, élémentaires, mais faut-il les rappeler? Ah, quand on est écrasé, quand on est chargé. Écoutez, je vous lis un autre texte. C'est tout simplement dans l'évangile de Luc. Écoutez, simplement, parce que quelquefois, nous savons tout ça, nous pouvons le comprendre intellectuellement. Dans notre tête, nous pouvons le comprendre. Mais il faut la délivrance de Jésus. Il faut crier à la délivrance. Il faut croire à la délivrance que Jésus est capable de nous apporter. L'histoire d'une femme, dans Luc, chapitre 13, et au verset, tout simplement, 11, verset 10, si vous voulez. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, verset 11. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Voilà, je suis interpellé maintenant par l'histoire de cette malheureuse qui était chargée, qui était fatiguée, parce que ça faisait 18 ans qu'elle était souffrante, parce qu'elle avait une infirmité qui, eh bien, la courbait, où sa vie était réduite à ne regarder que vers le bas, jamais vers le haut. Il nous est dit qu'elle était possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Si elle avait vécu en 2015, on lui aurait fait passer le scanner, l'IRM, et puis toutes sortes d'investigations comme ça, on aurait bien vu qu'il y avait quelque chose d'anormal. Certainement, comme j'en entends encore parler des uns et des autres, de la part des uns et des autres, en disant, voilà, j'ai fait des investigations médicales, on a regardé partout. Bien sûr, effectivement, il y a ceci et cela, mais je l'entendais encore cette semaine, il y a quelqu'un qui me disait, et dans des grandes souffrances, Eh bien, les médecins ont bien posé un diagnostic. Ils ont donné un nom à ma maladie, à mon infirmité, mais ils ne peuvent rien faire. Terrible, hein? Si, simplement des sédatifs, simplement des anesthésiants, simplement des médicaments qui vont couvrir la douleur pour empêcher de crier, mais le mal est toujours là. Ça, c'est terrible. Et pourtant, moi, je bénis le Seigneur de ce que Dieu a donné des médecins et des gens capables, des gens d'une grande intelligence. Ça, c'est vrai. Mais l'homme a ses limites. Oui, l'homme a ses limites. Et on s'aperçoit que, quelquefois, eh bien, après avoir tout essayé, après avoir déployé tout ce qui était en notre pouvoir de déployer, on ne peut pas aller plus loin. On le voit avec les terribles maladies de notre monde d'aujourd'hui. Hein. Eh oui, c'est comme ça. Et cette femme, figurez-vous, Jésus le dit, la Bible le dit, elle va employer un mot qui est assez un mot redoutable. Une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Nous, on ne dirait pas ça aujourd'hui. Hein. On donnerait certainement les éléments physiques. Hein. On pourrait être, y ajouter peut-être quelques éléments psychologiques, psychosomatiques peut-être. Mais on ne dirait pas ça. Et pourtant, Jésus le dit. C'est que derrière, finalement, certaines choses visibles, il y a des réalités invisibles qui ont une réalité, qui ont un sens. Mais comme l'homme est incrédule, comme l'homme d'aujourd'hui, et surtout l'homme moderne, est incrédule, il pense que tout ça, ce sont des rêveries hein, de gens qui délirent. Mais moi, je ne délire pas, je ne pense pas délirer. Mais je lis la Bible et je crois qu'il y a des vérités dans la vie, parce que ça peut se confirmer d'une manière ou d'une autre. Et ça se confirme. Alors, elle était possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Imaginez-vous qu'elle pouvait être fatiguée? Déjà, on est fatigué quand on est droit. Mais on peut être d'autant plus fatigué quand on est dans une... Et puis de ne pas avoir une vie comme tout le monde. Quelle humiliation, comprenez-vous, hein? Il y a beaucoup de gens qui souffrent dans leur cœur. Beaucoup de gens dont le cœur est brisé parce qu'ils ne vivent pas comme tout le monde, en pensant que tous ceux qui sont dans la normalité sont des gens heureux. Ça reste à prouver tout ça, hein. Mais cette femme était profondément malheureuse. La seule chose qu'elle pouvait voir, c'est ses pieds, parce qu'elle était bloquée. Elle ne pouvait pas, et certainement qu'elle a dû faire un peu de gymnastique pour essayer de voir si ça bougeait, mais ça ne bougeait pas. Et oui, quelquefois, il y a des situations figées dans notre vie, des choses qui sont... complètement arrêté, on se dit, mais comment je vais m'en sortir? Eh bien, Jésus va faire il va donner la réponse. Elle était courbée, nous est-il rapporté, et ne pouvait pas du tout se redresser. Malgré tous les efforts humains, malgré les efforts des hommes à côté, malgré ce que je peux faire, j'ai du mal à remonter la pente, j'ai du mal à voir un petit peu quelque part, quelque chose qui pourrait me donner de l'espoir dans ma misère et dans ma souffrance et dans ma peine et dans mon chagrin. Elle ne pouvait pas se redresser. Et il y a cette phrase qui est belle, ce petit mot, cette expression qui est très belle. Il nous est dit « lorsque Jésus la vit ». Eh bien, moi, je voudrais vous dire que la bonne nouvelle cet après-midi, et ce que vous entendez, c'est que Jésus vous voit aujourd'hui. Ouais. Il vous voit dans votre misère. Vous avez prié, il vous a entendu. Vous avez demandé sa grâce, il vous la donne maintenant. Il a vu cette femme. Elle était dans la synagogue, dans un endroit religieux, voilà, qui était propre, eh bien, au judaïsme. Et il nous est dit que la première chose, c'est qu'il a vu cette femme, alors qu'il devait y avoir beaucoup de monde. Cette femme qui devait être plus petite que toutes les autres, puisqu'elle était courbée. Mais Jésus l'a vu. Et Jésus voit la misère. Il voit nos pleurs et nos cris. Il nous entend aussi. Alors Jésus lui a adressé la parole. À elle, pas aux autres. Et il lui a dit, mes femmes, tu es délivrée de ton infirmité. Mes amis qui entendez cette parole cet après-midi, moi je voudrais vous dire que si vous croyez de tout votre cœur, le Seigneur vous délivre de ce dont vous avez besoin d'être délivré. C'est un saisissement dans la foi. C'est une prise de position. Tout à l'heure, nous allons avoir l'imposition des mains. Pour ceux qui veulent, vous viendrez. Et je ferai comme Jésus nous a recommandé. Voici les miracles, c'est dans l'évangile de Marc, hein, chapitre 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, dans le nom de Jésus, pas dans mon nom, mais dans le sien, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris, quelle que soit la maladie. Cette femme, eh bien, a entendu cette parole. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Jésus a fait ce geste que nous trouvons très fréquemment dans l'évangile. Il lui imposa les mains, écoutez bien, à l'instant, elle se redressa. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a glorifié Dieu. C'est pas formidable? Ça, c'est une nouvelle dont nous avons besoin aujourd'hui dans notre monde. Un monde rationaliste, un monde d'analyse, un monde de déduction et de combinaison et de calcul. Non, c'est le cœur qui parle. C'est le cœur qui parle. Alors venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Oui, tout simplement. La misère des hommes. Mais, ce qui suit, c'est très intéressant. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous savez, celui avec qui vous allez marcher maintenant, si vous avez choisi Jésus, il est très agréable de vivre avec lui. Parce qu'il nous dévoile son caractère doux et humble de cœur. Alors, on arrête avec la peur de Dieu. On n'a pas à avoir peur de Dieu. Dieu est notre ami. Il n'est pas notre ennemi. Il n'est pas contre nous, il est avec nous. Combien de gens, des milliers de gens ont peur de Dieu parce qu'on leur a fait peur de Dieu. La religion leur a fait peur de Dieu. Si tu n'es pas gentil, si tu n'es pas sage, eh bien Dieu va te punir. Mais ça, ce ne sont pas les paroles de l'Évangile. C'est terrible d'avoir cassé, brisé les cœurs en ayant fait peur à des enfants, à des hommes, à des jeunes gens, des jeunes filles et des plus âgés, de leur faire peur avec le nom de Dieu. C'est terrible une chose pareille. Alors, Jésus nous le dit, il nous le rappelle. Prenez mon joug. Il était question de venir tout à l'heure, vous avez entendu? Et maintenant, je suis venu vers lui et je prends. Je saisis, je m'approprie ce qu'il me propose. Mon joug sur vous et recevez mes instructions. Mes instructions, c'est ce que vous faites, c'est ce que nous faisons. Nous sommes en train de parler. Et nous ne parlons pas de n'importe quoi, nous parlons de la parole de Dieu, nous parlons de la Bible, nous parlons de Jésus et de sa bonne nouvelle. Et ça s'appelle les instructions de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, nous dit l'apôtre Paul. Vous voulez avoir la foi? Vous le désirez avoir davantage de foi? Vous répondez pas. Ah ben écoutez, si vous désirez avoir plus de foi, écoutez bien cette parole. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Écoutez la Bible, écoutez le message de la Bible, lisez la Bible chez vous. Elle vous paraîtra peut-être difficile au départ, mais si vous demandez à Dieu, aide-moi à comprendre, et le Seigneur vous donnera la compréhension. Souvenez-vous de ce matin, on en a parlé. Car je suis doux et humble de cœur. Il est merveilleux, ce Jésus que je vous propose. C'est pas lui qui est venu nous battre. C'est pas lui qui est venu nous discipliner. C'est pas lui qui est venu nous renvoyer, nous rejeter là d'où nous venons. Au contraire, il me dit, venez et prenez. Et moi, je viens et moi, je prends. Je suis preneur parce que j'ai choisi de prendre et j'ai choisi de venir vers lui. Conséquence, vous trouverez du repos pour vos âmes. Alors, vous êtes fatigué? Eh bien, Jésus vous propose maintenant de vous reposer. Ce n'est pas les grandes vacances. Ce n'est pas les Baléares et puis tout ce que les Seychelles. Ça, c'est du rêve. Mais on emmène toujours au loin, finalement, nos problèmes et notre misère. Hein, même si vous êtes dans une région idéale. Hein. Vous savez, les catalogues de vacances, j'ai rien contre. Hein, mais ils vous font... Évadez-vous, reposez-vous. Vous avez là, par contre, des cocotiers, un sable blanc, un petit peu plus blanc qu'à Saint-Nazaire, surtout au port. Et puis, une mer turquoise, ça fait rêver, non? Vous seriez prêt à partir ce soir, non? Pour cette destination? Ah, vous allez me dire combien ça coûte. Mais je vous fais rien payer, c'est gratuit, puisque je vous fais rêver. Mais toujours est-il que on emmène avec soi, et on l'a tous fait, hein. Quelquefois, fatigué et lassé, on s'est dit, tiens, je vais m'évader, je vais aller ceci et cela. Puis quand on arrive là-bas, on a fait le tour un peu du propriétaire, on se dit, mais mon problème, il est toujours là. Donc, on ne s'évade pas comme ça. Mais la véritable évasion, celui qui ouvre les portes de nos prisons, il s'appelle Jésus. Il a la clé, hein, et la bonne clé, pour ouvrir, finalement, et ne nous trompe pas. Je vous donnerai du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ça, c'est merveilleux, de savoir que tout est en douceur avec le Seigneur. Nous avons fait des erreurs. On a tous fait des erreurs. On a fait quelquefois des grosses erreurs dans notre vie. On a fait des bourdes monumentales. C'est vrai. Mais le Seigneur est capable de nous pardonner. Si nous lui demandons pardon, le Seigneur est capable de nous pardonner. Et il oublie nos fautes. Il oublie le mal que nous avons fait. Il oublie nos péchés. Et même la Bible nous dit qu'il les jette jusqu'au fond de la mer. Ah oui. Mais nous, est-ce que nous oublions les fautes que nous avons faites? Est-ce que nous voulons nous pardonner aussi? La question est tout à fait différente. Parce qu'il y a le souvenir. Hein. Parce qu'il y a le diable. Il y a l'ennemi qui est là pour te dire, regarde, tu parles de Dieu aujourd'hui? Tu veux te mettre à lire la Bible? Tu es en train de prier? Mais regarde ce que tu as fait. Tu te prends la tête, là, tu délires. Non, parce que quand Dieu pardonne, il pardonne bien. Mais ne laissez pas l'adversaire vous culpabiliser. Parce que le grand mal dans notre monde, et parmi les chrétiens, parmi les croyants, c'est justement de revenir en arrière avec ces suggestions subtiles et perfides de nous ramener en arrière en pensant que Dieu, eh bien, nous rejette pour l'éternité. Mais non, Dieu nous accepte. Il nous accepte tel que l'on est, avec peut-être nos souillures, avec notre grossièreté, avec tout ce que nous avons pu commettre, il nous accepte. C'est le retour du fils et de la fille prodigue à la maison, hein. Si vous connaissez le texte, Luc, chapitre 15, ça peut vous donner des indications. Et je termine maintenant. Je termine autour de cette pensée que nous avons développée. Le psaume 116. C'est un beau psaume, un des plus beaux. Mais comme ils sont tous beaux, on ne sait pas quoi dire. Sauf le psaume 116 de verset 3. C'est le cri d'un malheureux. C'est le cri d'une malheureuse. C'est quelqu'un qui regarde vers Dieu et qui s'attend à Dieu. Et Dieu va lui donner ce dont il a besoin. Écoutez, le psaume 116. Les liens de la mort m'avaient environné. Quelquefois, on a vraiment le sentiment qu'on n'en est pas loin. On n'a même plus envie de vivre. On a envie de mourir. Tellement la vie nous dégoûte, et tellement notre âme est amère, notre âme est encombrée. Et le poète dit, mais les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. Il était prisonnier. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Combien de gens sont en gémissement sur eux-mêmes, dans la solitude. Mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. Vous savez que nous pouvons être sauvés aujourd'hui, en cet instant, à travers ces derniers mots. Seigneur, sauve mon âme. Eh bien, le Seigneur sauve notre âme. Vous allez me dire, mais c'est de l'automatisme, ça. C'est quelque chose de magique. Non, c'est pas magique. C'est votre foi qui va faire la différence. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. Et nous le croyons. L'Éternel garde les simples. N'allez pas compliquer les choses. N'allez pas faire toute une de ce que vous ne comprenez pas encore, vous le comprendrez bientôt. Il garde les simples, les cœurs simples. J'étais malheureux, mais il m'a sauvé. Mais il m'a sauvé. J'étais, mais aujourd'hui, je suis sauvé. J'étais malheureux, aujourd'hui, je suis heureux. J'étais sans but et sans espérance hier, et maintenant, je sais où je vais. J'étais dans le tracas et les tourments. L'angoisse et la détresse, mais aujourd'hui, je suis dans la paix de Dieu. La paix dans mon cœur, la paix dans mes pensées, la paix dans mon âme, la paix dans mon esprit. Et quand je suis en paix avec moi-même, je suis en paix avec Dieu et je suis en paix forcément avec les autres. Donc les réconciliations, les ressentiments et les haines, ils disparaissent de ce que je peux avoir vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Et si les autres ont quelque chose contre moi qui est mauvais, eh bien je suis prêt à leur pardonner parce que je n'ai plus rien dans mon cœur contre eux. C'est pourquoi nous pouvons terminer cette parole toujours avec les premières lignes du psaume 116. Et c'est ça. Cette parole, elle est magnifique. Si nous voulons le dire ensemble maintenant. J'aime l'Éternel car il entend. Oui. J'aime l'Éternel car il entend la voix, ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi. Et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de ma vie, j'invoquerai son nom, parce qu'il est mon Dieu, parce qu'il est mon Sauveur, parce qu'il est mon Seigneur. Nous allons prier quelques instants. Alors, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Prenez mon joug et recevez mes instructions. Croyez-les. Et nous pouvons dire que maintenant, nous recevons la paix et le repos de Dieu. Et c'est ce qu'il va faire dans quelques instants. C'est ce qu'il fait déjà à partir de maintenant. Inclinons nos têtes quelques instants maintenant. Merci. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta parole. Merci parce qu'elle est simple, parce qu'elle est belle, parce qu'en effet, Seigneur, c'est une nourriture pour nos âmes. Oui, dans un monde où l'on meurt de faim, Seigneur, sur le plan moral, sur le plan, Seigneur, de la vie intérieure, au niveau de nos âmes, eh bien, Seigneur, vers qui pourrais-je me tourner? Vers des solutions illusoires, à travers des rêves, à travers une sorte d'idéalisme religieux? Non, Seigneur. Nous croyons que tu es plus que tout cela, Seigneur. Tu n'es pas une recette, tu n'es pas une méthode, mais tu es une personne, Jésus. Une personne vivante, parce que tu es mort pour mes péchés. Tu es mort pour mes fautes, mais tu es ressuscité pour que moi je vive. Seigneur, je te demande de visiter mes amis. Alors il y a ceux qui te connaissent bien, qui t'aiment et qui peuvent dire, eh bien j'aime l'Éternel. Puis il y a ceux qui sont en train d'apprendre tout simplement à le dire, j'aime l'Éternel ou je veux aimer Dieu. Parce que Seigneur, ce Dieu-là, il m'aime avant que je ne l'aime moi-même. Seigneur, je te demande de passer dans les rangs maintenant, de passer au milieu de nous, de te révéler, Seigneur, parce que depuis le début où nous donner rendez-vous cet après-midi, eh bien, même si tu es invisible, Seigneur, tu es vraiment au milieu de nous. Tu nous bénis, Seigneur. Je te prie pour l'homme, la femme. Je te prie pour celui ou celle, Seigneur, qui est dans une profonde détresse. Seigneur, parle-lui. Dis-lui que c'est la vérité. Dis-lui que ton esprit, Seigneur, c'est un esprit qui sauve, un esprit qui console, un esprit qui apporte l'apaisement, qui donne le repos et qui nous réjouit, qui nous donne la paix. Seigneur, maintenant, révèle-toi et manifeste-toi. Il y a la parole que nous avons apportée, mais il y a l'action de ton Saint-Esprit, sans laquelle, Seigneur, rien ne peut se faire. Moi, je te prie pour que ton esprit, maintenant, Seigneur, fasse de grandes choses. Oui, Seigneur, se révèle au cœur et aux vies, et qu'ainsi, Seigneur, tous ceux qui entendent ta parole puissent invoquer ton nom, comme nous l'avons dit, comme toi tu nous l'as demandé, invoque-moi et je te répondrai. Eh bien, Seigneur, nous croyons que tu donnes cette réponse maintenant, et tu bénis en effet, Seigneur, comme tu sais le faire. Et nous savons, Seigneur, que la bénédiction de notre Dieu, c'est celle qui est suivie d'aucun chagrin. Elle enrichit et il n'y a aucune peine. Oui, Seigneur, puisque tu nous as dit que tu étais doux et humble de cœur, et nous le croyons maintenant, et nous le recevons. Je viens, Seigneur, et je prends de toi ce qui m'est nécessaire pour vivre réellement. Merci, Seigneur. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.